Georges Suffer, vous êtes journaliste, vous êtes directeur adjoint à la direction de l'hebdomadaire Le Point. Vous avez fait beaucoup d'interviews. Nous en connaissons que vous avez publié encore assez récemment sous le titre Le cadavre de Dieu bouge encore. Vous avez fait aussi un livre avec l'historien Pierre Chaunu, qui est une espèce de dialogue, n'est-ce pas, où vous vous interviewez mutuellement. Pour une fois, maintenant, vous allez être interviewé par un autre, par un complice, si on peut dire. Et j'aimerais aller directement à l'essentiel, en vous demandant justement, qu'est-ce que c'est l'essentiel pour vous? Vous avez un jour posé une question à Georges Mathion en lui disant « Chacun à notre époque se débrouille avec sa propre vie et se garde de ne rien dire d'essentiel à l'autre. » Alors, nous sommes ici pour savoir ce qu'est l'essentiel pour Georges Suffer.
Oh mon Dieu, c'est assez simple. Bah, c'est de savoir quel sens a le court moment qu'on passe sur Terre. Et finalement, je crois que pour tout le monde, c'est ça. On peut ou bien répondre que ça n'a pas de sens, c'est une réponse assez générale à notre époque, ou bien penser que ce qu'on fera fécondera les générations futures et fera que le monde d'après-demain sera un paradis rousseauiste, ou rousseauisé, comme vous voudrez, ou bien on peut penser que rationnellement et intérieurement, c'est la phrase de bien classique, rien n'a de sens quand on regarde superficiellement, et pourtant c'est impossible que toute cette histoire fabuleuse qu'est l'histoire de l'homme, et donc la mienne, ait un sens. Alors moi je suis du troisième camp, je crois que toute cette histoire inouïe a un sens, et que je suis quelque part dans cette histoire, et donc ma vie a un sens.
Un sens que vous recevez, ou un sens que vous construisez, que vous donnez à votre vie?
Mais je dirais que c'est les deux. Enfin là, je retrouverai dans la vieille théologie de la grâce. Vous me faites brusquement plonger dans des vieux bouquins perdus dans les greniers. D'une part, c'est les actes de ma liberté, et je déchiffre le sens de ma propre vie, comme tout le monde, à travers ce qui m'arrive, ce que je fais, les choses intelligentes que je fais, les saloperies que je commets, la politique, puisqu'il paraît qu'il faut en parler. Les engagements qu'on peut avoir, mais le comportement que je peux avoir vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes gosses, de mes parents, vis-à-vis des plantes, la manière dont j'accueille les journées, etc. Ça se fabrique. Et puis deuxièmement, il y a ce qui m'est donné, bien entendu, c'est pas moi qui étais à la place d'Abraham, mais enfin, quelqu'un lui a bien dit de quitter son bled et de traverser un foutu désert pour aller vers la Méditerranée. Puis là, il est parti vers le sud, il a longé la côte, il est allé en Égypte. Il s'est demandé si l'Égypte avait un sens, puis il n'a pas compris, il est reparti encore à un autre endroit. Et puis il a pensé qu'il y avait un Dieu unique, et il a commencé une histoire gigantesque qui continue depuis 4000 ans. Et je suis au bout, comme tout le monde, enfin au bout, à l'extrême limite du moment, mais derrière il y a encore la suite. Moi je crois qu'on est au début simplement.
En d'autres termes, vous vous définissez comme chrétien?
Ah totalement.
Totalement.
Judéo-chrétien.
Judéo-chrétien.
Ah oui, complètement.
Bon. Alors, nous sommes
sans complexe.
Ben, dites-moi par exemple concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous que d'être un journaliste et un observateur de la scène politique?
Alors ça, d'être un journaliste, c'est quelque chose de, j'allais dire, presque plus difficile que la grâce, parce que ça, il faut le faire tout seul. Mais écoutez, c'est assez simple, et j'ai la définition la plus vieille, c'est d'essayer de raconter convenablement les événements tels qu'on les a vus, et tels que l'analyse permet de les discerner, de les mettre en forme. C'est-à-dire d'essayer d'approcher, tant qu'on peut, de la vérité des faits. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'objectivité, c'est pas vrai, c'est une vieille lune.
Vous m'en avez mes questions.
Mais si, je crois qu'il y a une volonté d'objectivité, et que c'est une espèce de difficulté intérieure et intellectuelle permanente. Il faut essayer de se rapprocher le plus près de l'objectivité, même si ça ne vous plaît pas. Bon, il y a des gens qui vous répondront, ça ne sert à rien puisqu'on n'y arrive pas. Et alors, on n'arrive jamais à l'horizon, ça ne vaut pas la peine de marcher.
Bon, vous voulez rendre les faits tels qu'ils sont, mais quand même vous avez aussi une certaine théorie de la société, vous avez une certaine vision de ce que ça doit être, la société. Dans quelle mesure, justement, cette vision ne s'interpose-t-elle pas, n'est-ce pas, dans cette observation des faits et le papier que vous allez écrire?
Écoutez, je ne sais pas si j'ai une vision de la société. Ça, alors là, je ne crois pas. En réalité, j'ai une vision très nette des sociétés que je ne veux pas. Et ça se définit de manière négativement. Par exemple, Bon, j'étais en Pologne il y a 3 semaines, j'ai aucune envie de vivre dans un système de type polonais. J'ai pas envie de vivre dans un système de type soviétique, j'ai pas envie de vivre dans un système de type chilien, je pourrais continuer longtemps comme ça. Bref, je suis un vieux libéral. J'aime bien qu'il y ait des partis différents, que les journaux puissent écrire à peu près ce qu'ils veulent, que la sottise soit répandue généralement, parce que je crois qu'elle est un élément de la vérité aussi. J'aime mieux qu'il y ait ça plutôt que des censures. En dehors de ça, vous savez, quel type de société est-ce que ça me donne, j'en sais rien. Je sais ce que je ne veux pas, je ne sais pas bien ce que je veux.
Donc vous n'avez pas de projet politique?
Non, je n'ai pas de projet politique déterminé. Mmh. Je peux dire que je préférerais que les gens soient un peu plus libres, disent moins de sottises, que les revenus soient un peu plus égaux, c'est-à-dire un certain nombre de banalités. Je suis comme tout le monde, mais vous savez, je pense que la plupart des gens, en réalité, sans le savoir, sont exactement comme moi. Ils collent par-dessus leur manque de vision politique générale, ils collent des systèmes qu'on leur a donnés. Alors ils se croient socialistes, communistes, libéraux dans le sens théorique, etc. Ils savent pas du tout ce qu'ils sont en réalité. Ils veulent pouvoir aller en week-end, avoir une bagnole, s'aimer bien, ils ont envie d'être heureux. C'est ça leur système politique.
Alors vous pensez au fond que les gens sont assez prosaïques?
Extraordinairement prosaïques. Je crois que peut-être c'est l'expérience de l'Europe. Je ne parlerai pas... Ça, c'est un côté européen. Vous savez, les grandes révolutions, les grands massacres, les terreurs, les guerres, on est devenu formidable, on connaît. L'idée de remettre ça encore un coup, ce n'est pas une grande allégresse. Je reviens d'Espagne, là où j'ai vu l'Espagne se libérer. C'est quelque chose de prodigieux. Regardez, c'est peut-être le premier cas dans l'histoire d'un pays qui passe de la dictature à la démocratie sans un seul événement. Il y a eu la mort de Franco, et c'est tout. Pour le reste, ils se sont débrouillés tout seuls. Mais je vous assure que ce sont des gens de 30 à 40 ans qui dirigent la Nouvelle-Espagne. Ils n'ont pas connu la guerre civile, faites la soustraction. Mais elle est derrière leur tête. La moindre faute, et ça pourrait recommencer. Ils n'ont pas envie de recommencer. Alors, ce prosaïsme-là, c'est-à-dire l'idée fondamentale qu'il faut éviter les massacres, je le prends comme la plus haute destinée de l'être humain.
Au fond, vous êtes content que les gens veulent être heureux.
Oui.
Et ça ne vous rend pas malade?
Non, pas du tout.
Vous avez presque c'est le contraire, n'est-ce pas? Vous trouvez même que certains intellectuels jouent un peu trop la corde de la désespérance.
Ils sont masochistes. Enfin, ils sont masochistes dans ce qu'ils écrivent. En réalité, dans leur vie quotidienne, une bonne analyse sociologique vous donnerait le même résultat que les autres. Ils s'en vont aussi se promener le dimanche en voiture. Et quand ils parlent de l'époque du Front Populaire, ils sont tout à fait ravis parce que les gens allaient en vélo. C'est la croûte derrière le bois de Boulogne. Très bien, c'était le bonheur, c'était René Clair. Mmh. Et ils sont toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de honteux dans le fait d'essayer d'être heureux, de savoir que les saisons, c'est beau, que les choses qui arrivent peuvent être bonnes ou mauvaises, qu'il faut surmonter l'adversité, et que le regard de son gosse, c'est quelque chose d'extraordinairement précieux. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Moi, je ne demande rien de plus.
Vous dites que finalement, donc, vous savez plutôt ce que vous ne voulez pas que ce que vous voulez. Mais on a souvent l'impression pour nous qui sommes les lecteurs du journal, qui sommes les lecteurs de ces grands journalistes, enfin dont vous faites partie, que les journalistes sont perpétuellement justement des contestataires, qu'ils sont jamais contents, n'est-ce pas? Alors je me dis finalement, est-ce que cet esprit de contestation ne risque pas justement de miner ce goût du bonheur?
Écoutez, il y a deux choses distinctes. Que les journalistes soient d'une certaine manière un peu contestataires, je prends le mot entre guillemets, Je trouve ça assez normal, après tout, ils sont là un peu pour se demander si on ne leur présente pas des vessies en leur disant que c'est des lanternes. Ils doivent demander d'abord des comptes, et de savoir si véritablement on ne leur ment pas trop, comme on ment beaucoup, qu'ils soient sceptiques, méfiants, enfin qu'ils aient l'attitude du savant, et on demande à voir, me paraît une très bonne chose. Puis il y a une deuxième chose, il y a une espèce de prestige qui est accolé à notre époque, à l'idée d'être le plus contestataire possible, le plus hostile vis-à-vis de la société existante, comme si véritablement on allait en faire surgir une autre d'un coup de baguette magique. Alors ça, c'est ce que j'appellerais un phénomène de mode. On est tout en train de se libérer tous les jours. Vous savez, les libérations, moi j'en ai connu une, c'était la libération de Paris. Là, j'ai vu ce que c'était. Vous aviez une armée qui foutait le camp, et une autre qui arrivait, tout ça dans des grands coups de fusil, avec beaucoup de morts. Ça avait un sens, on comprend ce que c'est. Mais la libération des enfants, des parents, de la femme, pour moi tout ça c'est une énorme comédie. Pensez comme si les femmes avaient attendu 1977 pour se libérer. Elles se sont débrouillées depuis un certain nombre de millénaires.
Elles avaient bien des trucs, n'est-ce pas? Mais si on parlait aussi cependant de ce pouvoir cas le journaliste actuellement, n'est-ce pas? Enfin, faisons allusion simplement aux événements qui se sont produits aux États-Unis, n'est-ce pas? Où finalement, une équipe de journalistes arrive à déloger un président des États-Unis, où finalement, une équipe de journalistes à peu près la même, d'ailleurs, remet en cause tout le système de protection, enfin, du citoyen, de la CIA, si on veut, n'est-ce pas, de ce même État. Alors, on est en face de gens qui finalement n'ont pas été élus, n'ont aucun pouvoir qui leur a été confié précisément par des voies strictement démocratiques, par élection, et qui ont un pouvoir dont finalement ils sont les seuls maîtres, et que personne ne peut leur
contester. C'est un grand problème, vous avez raison. Écoutez, je crois que par moment dans l'histoire, vous avez une catégorie professionnelle qui prend une importance un peu plus grande que les autres pendant un certain temps. On peut dire d'une certaine manière que le 19e siècle a été le siècle des ingénieurs, et que vers la fin du siècle, l'ingénieur type Jules Verne, enfin Cyrus Smith, si vous voulez, est devenu une espèce de schéma archétypique. Vous avez d'autres époques, en France, vous avez le 18e avec les encyclopédistes, ça va être les gens qui sont capables de classer, de savoir, etc., qui vont devenir les plus importants. Bon, il est vrai qu'à notre époque, avec l'irruption en force des médias, comme on dit, les journalistes ont pris une position extraordinairement plus puissante que les autres. Ça durera ce que ça durera, et à mon avis, ça s'effritera progressivement à cause de deux choses. La première, c'est qu'ils vont dire tellement de bêtises que les gens s'en apercevront et les croiront moins. La deuxième, c'est parce que je crois que le public s'habitue au langage des médias. Ce qui me frappe, c'est que l'usure de la télévision est fantastique, et qu'au bout de quelques années, vous verrez que les gens la regarderont comme ils écoutent un fond de sonore de radio avec une grande indifférence. Parce que la capacité de résistance de l'être humain aux chansons aux chansons folles est absolument formidable. On se mitridatise. Alors je crois que ça va diminuer. Mais il y a une deuxième chose, c'est que je crois que les journalistes, pendant cette période extraordinairement difficile, devraient faire attention un peu plus à ce qu'ils disent. Mais enfin, vous me direz, je n'ai pas donné de morale. Vous donnez le cas américain. C'est pas eux qui ont fait tomber Nixon. C'est tout de même, ça c'est une légende, de dire que c'est tout de même les types du Washington Post qui ont dégringolé Nixon. On peut dire qu'ils ont allumé une mèche. Et ensuite, la mèche a mis à brûler. Et ce qu'on peut penser, c'est pour quelle raison est-ce que cette mèche-là va brusquement aller jusqu'à la chute du président. Exactement, vous pouvez vous dire que quelle est la mèche qui déclenche la chute de Louis XVI. Mmh. En réalité, c'est une révolution qui s'est déclenchée. Et les gens du Washington Post ont déclenché une révolution. Mais cette révolution, elle est très complexe. Révolution contre la défaite américaine. Révolution contre les toutes-puissances de la Maison-Blanche. Révolte des États et des sénateurs et du Congrès contre une Maison-Blanche qui, depuis Kennedy, était un centre à peu près sans limite de pouvoir. Révolte contre le kissingerisme. Vous avez tout ça dans ce qui s'est déroulé. Et ça, c'est pas le Washington Post.
C'est le peuple, finalement, à différents niveaux.
Oui, il y a eu ensuite le niveau politique, puis le niveau ensuite de l'opinion publique, puis tout ça s'est déclenché les uns après les autres, et vous avez une révolution non sanglante. Le Watergate, c'est une révolution. Il n'y a tout de même pas d'autre exemple dans l'histoire américaine d'un président dégringolé par l'opinion publique. Et ça échappe, alors, si vous voulez, à ce niveau-là, aux journalistes. À mon avis, ils l'ont déclenché, alimenté parce que ça rapportait. Il ne faut tout de même pas être trop naïf, ça rapportait beaucoup aux journaux. Mais ensuite, vous avez un phénomène beaucoup plus profond qui, maintenant, aux historiens, qui appartient aux historiens, c'est à eux de l'étudier et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça a été que le Watergate.
Mais carrément, est-ce que, par exemple, le journaliste que vous êtes, est-ce que vous vous sentez un homme ordinaire ou un homme, justement, à part des autres, un peu au-dessus des autres et qui n'a de compte à rendre à personne?
Alors, ça, c'est très clair, je me sens totalement ordinaire. Et je le suis. Quand j'en ai un peu assez d'entendre et mes collègues et les intellectuels, je m'en vais à la campagne et je vois mes copains qui sont, je fais 1700 démagogies, mais ça a toujours été comme ça, qui sont paysans, ouvriers, commerçants, vendeurs sur le marché, etc. Et je les vois à peu près toutes les semaines, un bon bout de temps, parce que je vais boire un verre avec eux, et c'est là où je retrouve les choses les plus essentielles. C'est là où je comprends en gros ce qui va se passer politiquement. Ils m'en disent bien plus que les analyses. Ils ont tout pigé avant. Ils sont malins, ils ont une espèce de ruse par rapport à l'événement pour s'arranger. Ils savent énormément de choses. Je ne fais pas du populisme. Je dis simplement qu'ils ont une grande capacité de savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alors qu'à Paris, c'est très très difficile. Donc, je revendique d'être un homme ordinaire, sinon je commencerais à n'être plus capable de leur parler.
D'accord, vous êtes un homme ordinaire quand vous vous évadez. Mais quand vous publiez un article dans votre journal, vous n'êtes plus un homme ordinaire.
Bon, vous savez, d'abord, il ne faut pas exagérer. Je dirais que la presse écrite, ce n'est pas la même chose que la presse télévision. Hein. Mmh. C'est tout de même tout à fait différent. On s'adresse à un nombre de gens beaucoup plus limité. On peut mettre plus de nuances. On n'a plus de temps. Un article, c'est plus long, relativement. Bon, mais je crois que nous restons tous des hommes ordinaires pour une raison simple. Ou bien on parle aux copains. Et alors, à ce moment-là, on emploie une langue incompréhensible. Ça, c'est très chic. C'est « in », comme on dit. Puisque en français, pour avoir l'air malin, il faut parler anglais. On pense continuellement que le lecteur, il ne veut pas qu'on l'ennuie. Vous savez, la vieille règle des journalistes d'autrefois, c'était fait emmerdant en France. Ben, moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Qu'on n'a pas le droit d'ennuyer le lecteur. Sinon, il ferme le journal et il s'en va. Et si vous parlez comme tout le monde, à ce moment-là, vous êtes encore un homme comme tout le monde. Il y a une espèce d'ascèse du langage simple et de la clarté qui me paraît indispensable. Sinon, c'est parler aux petits camarades, c'est parler à Saint-Germain-des-Prés, quoi. Ça, jamais.
Mais comment, justement, dans ce métier de journaliste maintenant, vivez-vous cette valeur, ce sens de l'essentiel dont nous avons parlé au début de l'entrevue? Comment ça se traduit concrètement?
J'en sais rien. Comment est-ce qu'on articule sa foi sur sa vie quotidienne? Il y a des tas de gens qui parlent toujours beaucoup de ça. Moi, j'en sais rien. Et je pense que, au fond, j'ai pas tellement à m'en occuper. Si on croit profondément à ce qu'on fait et à ce qu'on doit faire, si on accepte sa propre existence avec une certaine allégresse, puis qu'on la trouve drôle, à partir de ce moment-là, je dirais que les choses s'articulent d'une manière relativement mystérieuse. On n'est pas les maîtres ni de l'événement complètement, ni des rapports avec les autres. Ça fait partie du mystère, puis ça fait partie de ce qu'on défriche tous les jours. Et c'est beaucoup plus agréable comme ça. Pourquoi voulez-vous que je cherche à trouver une morale claire à toutes les minutes? Tout ce que je sais, c'est que une morale hiérarchique, c'est pas supportable. Je me vois pas donnant un ordre. Sauf si véritablement, il n'y a pas moyen de faire autrement. À ce moment, je pousse un coup de gueule.
Et vous ne voyez pas faire de la morale dans un article, non?
Jamais. 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 Pour leur expliquer une morale, ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Ils sont assez grands maintenant, les gens. Simplement, quand quelque chose devient une idée reçue, par exemple, il n'y a pas de péché, on peut faire ce qu'on veut. Alors là, moi, j'écris l'inverse. Et je suis sûr de gagner, parce que tout le monde sait très bien quand on fait une saloperie. Pensez bien, c'est pas très difficile. Et deuxièmement, il y a un type de rapport humain avec les gens avec qui on travaille, avec les gens avec qui on vit, ça c'est très important. C'est-à-dire, ne pas se mettre en colère, ne pas être orgueilleux. Mais vous allez m'arrêter tout de suite, je suis en train de vous réciter le décalogue. Ça tient toujours ce truc-là.
Ça tient toujours.
Ça tient toujours. Ouais. C'était très intelligent.
Mais il y a une chose quand même extrêmement importante, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure dans votre réponse, il y a une chose qui est importante pour vous, c'est la bonne humeur, si on peut dire, c'est la joie de vivre, c'est la confiance dans la vie. Pour vous, c'est capital.
Oui, c'est pas une confiance tellement béate, vous savez, j'imagine qu'il va y avoir encore de sales moments et qu'on n'en est pas sorti. Puis il y a le vieillissement, puis il y a la maladie, puis enfin, c'est fantastique. Toute vie est une tragédie qui se termine par la mort. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les tragédies grecques. Sa propre vie est une tragédie. Et alors, ce n'est pas très très important. Je me souviens de ce que me disait Mauriac juste avant sa mort. J'en parle un peu là-dedans, mais c'était très très difficile d'avoir des rapports avec lui parce qu'il n'avait presque plus de voix. Il se faisait à peine entendre. Et il me disait, vous allez ressortir et vous allez retrouver le printemps. Vous avez de la chance. Je ne verrai plus celui-là. C'était un homme qui savait qu'il y avait des saisons et que peut-être, par le bout de sa fenêtre, derrière sa couverture, puisqu'il était immobile tout le temps, il était encore rattaché à quelque chose qui était la vie. Cette espèce d'immense poussée. Puis alors, écoutez, est-ce que c'est de la bonne humeur de s'interroger sur la raison de cette histoire fabuleuse de l'homme? Moi, je suis tous les jours émerveillé par ce qu'on découvre, par l'histoire, par cette espèce d'extraordinaire poussée de cet animal à deux pattes sur cette boule qui est en train d'essayer de regarder la Terre. Moi, quand les hommes sont arrivés sur la Lune, comme beaucoup de gens, j'ai pas dormi, j'ai regardé parce que c'était fabuleux de voir des hommes sur la Lune. Et je crois que cette aventure, elle est tellement passionnante que la seule chose qui m'embête de la mort, c'est si on me disait « tu sauras pas la fin ». Parce que je voudrais bien savoir ce qu'il y aura après. Mm-hmm. Mais comme je suis convaincu qu'on me dira la fin, j'ai pas trop de crainte. Mais c'est passionnant, je comprends pas le type qui s'ennuie.
Oui, mais alors, justement, vous êtes confiant, vous avez cet espoir, et vous dénoncez la désespérance des hommes actuels. N'est-ce pas? Pour vous, elle vous apparaît catastrophique.
Oui, alors ça, c'est beaucoup plus simple, c'est une situation historique. Si vous voulez, la mauvaise conscience a été un élément fondamental de la culture européenne. Bon, je dis l'Europe, Étant entendu que le Canada et les États-Unis sont des enfants qui ont beaucoup grandi, mais sont des enfants de l'Europe et qu'on vous a refilé notre petite vérole, si je puis dire. Bon, la mauvaise conscience, ça a été tout de même la grande maladie qui est née à partir des Lumières et qui a accompagné toute l'histoire de l'Occident jusqu'à la fin du 19e, au début du 20e. D'une certaine manière, on pourrait expliquer le nazisme et le communisme par la mauvaise conscience. À partir de ce moment-là, on peut se demander si la mauvaise conscience est devenue quelque chose de tellement intelligent. Ça consiste à penser à toutes les minutes que l'on est coupable. Coupable de quoi, j'en sais rien, etc. Ça me paraît une telle sottise. Qu'est-ce que je peux, moi, de ce qui se passe demain matin au Bangladesh? Est-ce que je peux empêcher M. Amin Dada de commencer à massacrer n'importe qui? Non, on va pas faire une expédition militaire. Bon, donc ce que je peux, c'est autour de moi. J'allais dire que c'est une vieille notion, c'est encore le prochain.
Vous voulez limiter, au fond, le sens de la responsabilité qu'on a voulu étendre à toute
mais
la Terre.
Mais vous savez ce que c'est que de l'étendre? Oui. C'est la diluer. La diluer, c'est faire du type un innocent. En réalité, la mauvaise conscience fait de n'importe qui un type innocent. Du moment que je vais aller à un meeting de protestation, je peux être un salaud vis-à-vis de ma femme. Ma bonne conscience, elle m'est rendue au meeting. C'est la confession de notre époque. Bah, vous savez, on peut se passer du meeting ou y aller. Ça n'a rien à voir avec la bonne conscience ou la mauvaise conscience. Les opinions qu'on prend ne sont ni courageuses ni pas courageuses. Monsieur Attel a pris une position courageuse, c'est de la blague. Prendre une position, c'est signer un bout de papier, c'est pas du courage. Le courage, c'est quand il y a des mitrailleuses devant. Et là, c'est autre chose. C'est tout à fait différent. Mais sinon, position est intelligente ou elle n'est pas intelligente. Elle tombe à propos, elle a une efficacité ou pas. C'est tout ça qui est ramassé dans la manière d'être et d'avoir une certaine confiance dans ce qu'on peut faire qui n'est pas une mauvaise conscience. Moi, ça me paraît relativement simple, mais je sens bien que c'est pas tellement simple.
C'est pas tellement simple, c'est loin de là, parce que ça demande aussi un courage du quotidien.
Quel courage? Se lever pour aller travailler, si vous dites rester chez vous toute la journée, ça vous embêterait. Moi, je crois pas que le travail soit une malédiction.
Il n'y a pas que le travail, il y a les gens avec qui on travaille, il y a justement la fidélité de tous les jours, tout ça, ça demande du courage, ça va pas de soi, non?
Je sais pas, je trouve que c'est assez facile finalement, que les gens peuvent très bien le faire et le font d'ailleurs assez bien. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, si vous avez dans une équipe, je vois un journal, c'est une équipe, vous savez, ici on est 175 environ, ben, si les rapports établis entre les gens sont bons, s'il y a une certaine qualité de la manière de se parler les uns les autres, etc., vous arrivez à résoudre la plupart des problèmes sans utiliser les mécanismes hiérarchiques ni la vantardise, ni l'héroïsme du chef et toutes ces salades. Vous pouvez très très bien avoir des rapports qui n'empêchent pas du tout qu'au moment où une décision doit être prise, et s'il y a 15 personnes qui discutent, vous disiez à la fin, ben c'est celle-là qui sera prise. Vous voyez, il y a une articulation à notre époque entre les hiérarchies nécessaires et en même temps un nouveau ton entre les hommes qui est parfaitement possible. Moi, je considère que c'est quelque chose de très très moderne, ce que je vous dis là, parce que c'était pas ancien du tout. Et c'est pas tellement réalisé. Mais il n'y a pas de quoi en faire si qu'est-ce qu'il y a qu'à le réaliser.
Mais dans votre livre, La Peste Blanche, écrit avec Chaunu, n'est-ce pas? Il reste que quand même, vous trouvez que la situation actuelle est grave.
Ah ouais, ça, elle n'est pas bonne. Non mais écoutez, moi je me souviens très bien de mon père en 1936, il écoutait les discours d'Hitler à la radio et il ne comprenait pas un mot d'allemand. Et je lui disais, j'étais tout petit, j'avais 4 et 3, 7, j'avais 7 ans. Et je lui disais, pourquoi tu écoutes ce monsieur qui parle pendant des heures et qui hurle? Il me disait, parce que c'est la guerre qui vient. On était en 1936 et je me suis rappelé très bien. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute, ils savaient, tous les Français savaient que ce qui allait nous tomber sur la tête. Bon, cette fois-ci, c'est pas la même chose, tout à fait. Mais que nous soyons malades, ça c'est tout à fait évident. Que la situation soit très très difficile, c'est évident. Quand vous promenez une Allemagne qui a une richesse économique et qui n'a pas de réalité politique parce qu'elle ne peut pas en avoir, une France qui ne sait pas où elle va aller et qui geint lamentablement en se disant il faut refaire le monde alors que l'État pays est relativement heureux, une Espagne qui a 35% d'inflation, une Italie dans laquelle tout le monde s'enlève les uns les autres, et une Angleterre qui s'est couchée depuis un moment, vous parlez d'une Europe, c'est pas mal. Alors, je regarde les Canadiens, les Américains, qui disent tout ça c'est pas grave, effectivement, pour vous c'est pas grave de l'autre côté. Mais de notre côté c'est assez sérieux. Alors je crois qu'il faudrait qu'on se réveille un peu. C'est pas la mauvaise conscience ça. 40 c'est pas la mauvaise conscience, c'est une capacité de dire non. Alors ça je crois beaucoup à la capacité de dire non.
Oui, dire non à quoi?
À lâcheté. Mais à lâcheté intellectuelle.
Elle est généralisée actuellement.
Elle est assez généralisée. Oui. Bah, vous savez, dans les époques où tout s'écroule, il n'y avait jamais beaucoup de monde pour bousculer. En 40, les Français étaient pétinistes. Dieu merci, on ne connaissait pas le référendum. S'il y avait eu un référendum, vous auriez eu cette trace historique. On aurait voté à 92%.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le courage intellectuel?
Ça Ça consiste à ne pas accepter l'ensemble des sottises qu'on vous raconte toute la journée, de prendre chacune des choses qu'on vous dit au crible et de regarder. Par exemple, quand je prends le programme commun, ben je regarde si ça peut être chiffré, et si ça peut être réalisé. Si je trouve un trou de 200 milliards, je trouve que ça fait beaucoup, 200 milliards. Oui, c'est ça le courage intellectuel. Bon, ben, c'est objectif, ce que je veux dire.
Au fond, vous pensez que les hommes sont naïfs, finalement?
Formidablement. Oui. Ils ont une espèce d'aspiration vers une espèce de bonheur, tout est possible, et en même temps, on leur serine que tout ne sera possible que plus tard. Résultat pratique, ils sont malheureux et ils attendent tout de l'avenir.
Et à la place de la naïveté, vous voulez mettre le soupçon?
La méthode intellectuelle consiste à regarder si la chose est vraie ou n'est pas vraie. Mais c'est vieux comme le monde, c'est le vieux truc scientifique, quoi. C'est l'attitude du savant. Ça consiste à ne pas prendre une affirmation pour la vérité.
Mais est-ce que ça, c'est pas possible, encore une fois, qu'à une certaine élite de gens particulièrement bien informés, est-ce que c'est possible à monsieur tout le monde?
Moi, je crois que c'est tout à fait possible à monsieur tout le monde. D'abord parce que monsieur tout le monde est assez bien informé maintenant, même si à travers le brouillard des informations, il a du mal à s'y retrouver. Tout de même, il sent vaguement. Je me rappelle très bien au moment de la crise du pétrole, quand les Français se sont débrouillés, le gouvernement français s'est débrouillé pour n'être pas solidaire avec aucun des autres gouvernements européens. Bon, les Français étaient très contents de pouvoir continuer à avoir de l'essence dans leur bailleur, mais ils n'étaient pas fiers. Ils ont très bien senti qu'on n'avait pas été très, très élégant dans cette histoire-là, et qu'on n'avait pas été très européen, en tout cas. Donc, monsieur tout le monde, il sent bien les événements, d'une certaine manière. Il peut se tromper, mais il les sent. Et puis, deuxièmement, il y aurait quelque chose qui pourrait aider beaucoup, c'est si effectivement, j'allais dire, les gens qui ont la possibilité de parler dans les médias, d'écrire, etc., étaient un peu plus sérieux. Ça, c'est vrai, je demande du sérieux, et un petit peu plus, je dirais pas courageux, mais un petit peu plus sérieux par rapport à l'événement, par rapport à ce qui est possible et pas possible. Ça, c'est une grande difficulté. Ça demande très précisément aux intellectuels de croire à ce qu'ils écrivent.
Et de croire à la vie.
Et de croire à la vie.
Ce que vous souhaitez pour monsieur tout le monde.
Ce que je crois pour monsieur tout le monde, croit déjà à la vie, croyez-moi.
Georges Suffert, je vous remercie.